If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Et en fait, le problème, c'est qu'il y a un article qui a mis le feu aux poudres avec une citation avec Ornicard. On veut mettre fin aux raquettes organisées des auto-écoles traditionnelles. Alors évidemment, on n'a pas trop maîtrisé notre com parce qu'ils n'étaient pas très contents. Les auto-écoles traditionnelles ont mis le feu aux poudres parce qu'on a demandé notre agrément. Et puis, qu'est-ce qui donne l'agrément? C'est un comité qui est composé des gens de la préfecture et puis à l'époque des gens des syndicats des auto-écoles traditionnelles. Et on était évidemment, tout le monde a dit, mais si jamais vous donnez l'agrément en plein comité, si vous donnez l'agrément à Ornicard avec ce qu'ils ont dit, etc., vous nous lancez un message d'appel à la guerre et on va se mettre dans la rue et tout bloquer, etc. Et l'administration, dont on peut parfois douter de son courage, a dit non, vous inquiétez pas, on va mettre le dossier sous la pile. Et cette pile, elle a duré 2 ans et demi.
Exécuté par qui?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès, depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. On est donc avec Benjamin Guéniaud. Salut Benjamin.
Salut.
Comment ça va?
Ça va très bien. Il fait beau, on est en début de semaine, avec une semaine bien chargée, mais je suis content de prendre ce petit moment où en fait l'enregistrement de podcast, c'est un moment où je mets mon téléphone sur mode avion et ça n'arrive jamais à d'autres moments que dans ce moment-là ou quand je suis dans un avion.
Eh ben, je te remercie alors de prendre un petit temps. On va reparler de ton histoire et de l'histoire d'Ornicard parce que t'es le patron de cette boîte qui a, je crois qu'on peut dire, révolutionné le permis de conduire depuis maintenant 2 ans. Alors la boîte est plus vieille que ça, mais tu vas nous raconter un petit peu, ça n'a pas été ultra fastoche. Je suis très heureux aussi de t'avoir parce qu'on va parler ensemble de succès, si tu veux bien, parce que donc le podcast s'appelle Histoire de succès et j'ai un peu l'impression que tu as vraiment une ambition démesurée. J'aimerais bien en parler avec toi, quoi, tu vois.
Ouais, avec plaisir.
Mais la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Benjamin, quand tu avais 7-8 ans?
Alors, et moi, il faut savoir que je suis né à Châteauroux et que jusqu'à ma seconde, j'étais en cours, d'abord dans le village qui s'appelle Dior, comme la marque, mais avec un S. Puis après, j'étais en cours à Châteauroux, puis après, j'étais à Paris. Mais donc, à 7-8 ans, a priori, je devais être encore en primaire, dans le village de Dior, dont ma mère était le maire du village.
Qui l'est toujours aujourd'hui ou...
Non, elle l'est plus. Elle ne l'est plus, mais avant, sa mère était maire du village. Bref, c'est une histoire de famille. Et donc, d'ailleurs, l'école dans laquelle j'étais à 7-8 ans porte le nom de ma grand-mère.
Holy shit, ok.
Donc voilà. Mais j'étais un petit garçon plutôt médiocre, à la fois au cours. Voilà, j'avais des potes, j'étais pas non plus la star, évidemment pas la star de la classe.
Pourquoi tu dis évidemment pas?
Non, parce qu'il y en a souvent qu'une, tu vois, donc t'aurais eu du bol de tomber sur la star de la classe. Okay. Mais tu vois, j'étais un peu passe-partout. Voilà, je suis issu d'une famille plutôt aristocrate, vieille famille française. Donc ma grand-mère, dont porte le nom de l'école, s'appelait Bernadette de la Rochefoucauld. Et voilà, donc une étiquette évidemment, un peu fils de bourge dans ces écoles primaires, puis après au collège.
Et, c'est un truc que c'était un peu un stigmate pour toi
Écoute, c'était comme ça. Okay. Je suis né avec ça. J'ai grandi dans des environnements où j'étais avec d'autres. Je me faisais des copains qui n'étaient pas du tout du même milieu ou l'environnement. Moi, j'ai trouvé ça trop sympa. Ces gens-là ne me le reprochaient pas, mais j'étais qualifié en tant que tel. Tu vois, c'est Benjamin, c'est celui qui habite au château, c'est celui qui est l'aristo, le bourge. Tout ça. Mais plutôt sans malveillance, qui est juste c'était un facteur. Comme aujourd'hui, on me dit je suis le fondateur d'Ornicar. Avant, on pouvait me dire c'était le Bourges quand j'avais 7-8 ans.
Okay.
Et voilà, j'espérais qu'on me qualifie, enfin en tout cas qu'on me prête d'autres qualificatifs que celui de Bourges, mais c'en est un parmi d'autres.
D'accord. Et comment se passe pour toi, genre le collège, le lycée, l'école?
L'école, ça se passe bien. Je suis pas un gros bosseur, mais c'est encore le cas aujourd'hui.
Quoi?
Enfin, en tout cas, les trucs qui m'amusent pas, je les fais pas, quoi.
Ah oui.
Et donc à l'école, ça m'amusait pas. Il y avait d'ailleurs pas grand chose qui m'amusait. Donc mes études se passent médiocrement. Hein, donc je vais en pension en banlieue parisienne.
Pourquoi tu vas en pension?
Et je vais en pension parce que mes parents habitent donc à côté de Châteauroux, et mes parents estimaient que ça m'offrirait plus de chances que d'aller étudier en Île-de-France, et donc c'est pour ça qu'ils n'avaient pas me payer un appartement alors que j'étais en seconde, et donc la pension est finalement le meilleur moyen, sachant que moi tout était écrit, hein, j'ai deux grands frères jumeaux qui sont au-dessus de moi, puis une sœur, on a tous fait exactement le même cursus en termes de, pas d'école, mais pension en seconde, et voilà. Et donc voilà, donc pension, je prends une grosse claque parce que le niveau était quand même bien plus difficile qu'en province. Et puis en plus en seconde, donc j'attaque cette seconde où je perds mon père. Deuxième grosse claque, ça a été un peu plus compliqué la fin parce que je le perds en mars 2004 et donc je dois finir l'année quand même. Même si heureusement c'était une année sans examen, il n'y a pas de bac du tout, mais c'était un peu dur. Mais voilà, donc ça a évidemment beaucoup marqué ma jeunesse, hein, la perte de mon père, qui était malade, hein, donc c'était pas la grande surprise. Mais
oui, ça n'a pas été un accident. Quoi.
Non, c'est pas un accident. Et voilà, mais finalement, chaque fois, il revenait de l'hôpital plutôt en bonne forme, et puis un jour, il est parvenu.
Ok.
Et voilà. Et donc ça, c'était après donc mes écoles. J'ai fait 3 ans de pension. J'ai jamais perdu. En revanche, un truc qui me caractérise, je n'ai jamais redoublé ou quoi que ce soit. Il était pour moi inconcevable que je perde une année. Je suis quelqu'un.
Tu passes une année de plus à l'école.
Et refaire la même chose. Je sais pas si je m'en serais remis. Je suis quelqu'un d'extrêmement impatient, beaucoup trop pressé, et je déteste les lenteurs. Et donc perdre un an ou redoubler une année. Alors j'étais pas assez intelligent et pas assez bon pour sauter une année, ça m'aurait bien plu. Mais en revanche, j'ai tout fait pour ne surtout pas redoubler. Et donc après, mon lycée, je suis aussi quelqu'un parfois assez confiant, hein, assez sûr de soi. C'est souvent le caractéristique des mauvais élèves. Ouais, c'est bon, j'ai réussi celui-là. Et puis finalement, c'est deux, quoi. Et donc là, je présente les écoles de commerce post-bac. Parce que j'avais évidemment aucune envie, je suis pas un bosseur, donc je vais pas faire de prépa. et j'aimais bien l'idée de l'école de commerce, parce que c'était assez généraliste. Et moi, tout ce qui me drive, c'est le commerce, les négociations, j'aime bien l'argent. Et voilà. Et donc, les études de commerce, ça me paraissait pas mal, mais je révise pas en me disant, de toute façon, ça va passer tout seul, impeccable. Et puis, évidemment, je n'ai même pas les oraux. Hein, donc, je me plante, mais à l'écrit, mais terriblement, quoi. Pour pas même pas être reçu dans les convocations orales, où là, après, ils refont un gros tri, c'est que j'étais vraiment nul.
Okay.
Et donc je me dis qu'est-ce que je vais faire, un truc qui me prend pas trop de taf, et donc là je vais en BTS commerce international, et donc là se poursuit quelques années de glandes où j'en fous pas une, et alors, du coup ça se passe très bien, je sais pas, le commerce ça m'allait bien, donc sur certaines matières je suis même majeur de promo, donc ce qui m'était jamais arrivé, et puis après je dis en revanche il faut quand même que j'ai fait une école, et donc je présente des écoles, les écricom, là, les concours. Et puis je suis là, j'ai un peu plus bossé, et je suis admissible, donc pour passer les oraux à l'époque ça s'appelait Euromed à Marseille, Nancy, Poitiers et Bordeaux. Bon, on n'est pas sur les 5 premières, hein, qu'on soit honnête.
Parce que pour les gens qui ne savent pas, il y a des classements d'écoles de commerce.
Effectivement, c'était pas HEC, vous pouvez entendre, ESCP, ESSEC.
Toute façon, l'objectif dans ces histoires, c'est toujours de te classer d'une manière ou d'une autre.
Exactement. Mais moi, je suis très client de ce genre de classement, etc. Bref, je n'avais même pas présenté les grandes écoles.
Mais tu es client de ce genre de classement, et pour autant, tu passes ton temps depuis tout à l'heure à dire que tu étais bof, quoi.
Mais au moins, ça me permet de savoir où je suis. Ouais, okay. Exactement. Donc moi je suis assez j'ai besoin de ces repères là, et donc voilà, bon, donc je fais les oraux, donc je suis admissible à notamment donc Euromed qui s'appelle Kedge aujourd'hui, et là je vais passer les oraux, et puis je découvre Marseille, Et là, je passe deux jours chamés. L'oral se passe trop bien. Et comme je suis toujours trop confiant, je dis, allez, c'est bon, c'est sûr, je les ai mais fumés, les jurys, là. C'est sûr que je suis pris. J'appelle tous les autres, parce que c'était Nancy, il fallait me taper à traverser la France, là, Nancy, Poitiers. Alors, je viens de Châteauroux, donc c'est pas qu'on me trouve en école à Poitiers. Et puis, je sais pas, Bordeaux, bah, tirez-moi. Et donc, j'annule tous mes autres oraux en disant, vas-y, de toute façon, c'est Marseille ou rien, etc. Donc, évidemment, ma mère pète un câble en disant, mais enfin, c'est soit très con, soit vraiment complètement inconscient, quoi. Et certainement un peu des deux. Et heureusement, j'ai été donc admis, j'avais bien réussi, effectivement, parce que j'ai eu 19 pour le coup, elle me sent très bien à mon oral. Et donc, je suis rentré à Marseille, j'ai fait 3 ans d'école à Marseille. Là aussi, surtout pas d'année de césure, parce que ça serait une année de perdue. Et donc là, je pensais glander en BTS, puis j'ai découvert ce que c'était que la vraie glande. Cours le lundi et le mardi matin, et être en vacances le mardi à midi, enfin le week-end. Le problème, c'est que t'es étudiant, t'as pas de pognon, et t'as 5 jours et demi de vacances, quoi. Donc il faut les occuper. Et donc au bout d'un moment ça m'a amusé un an, puis évidemment j'avais plus un rond, et puis surtout un train de vie qui était pas du tout, tu vois, on faisait des teufs tout le temps, et je me suis dit bon allez, il faut que je switch, et donc je me suis mis en apprentissage, et donc j'ai fini en apprentissage. À l'époque c'était un peu moins répandu, et quand je disais autour de moi mais je vais faire l'apprentissage, etc., encore une fois dans mon milieu un peu aristo, machin, etc., elle me dit non mais pas du tout, profite de tes études, c'est hyper, c'est très mal vu l'apprentissage, alors que pas du tout.
Bah oui, ça permet d'apprendre le métier.
C'était vraiment, c'était chambé. Alors, je le faisais pas vraiment, enfin, c'était pas une question financière pour pouvoir payer mes études. C'était juste que là, je commençais vraiment à sombrer dans la glande ultime, quoi. Et donc, je me dis, bah, effectivement, ça va me simplifier la vie pour pouvoir trouver un boulot, quoi.
Mais tu crois que cette histoire d'apprentissage, c'est parce que c'est, en général, ça se rapporte au métier très manuel.
Complètement.
Ouais, c'est
complètement.
Ça.
Complètement. On associe ça à de la maçonnerie, enfin, ouais. Ce sont des très bons métiers, hein, de la maçonnerie, de la coiffure, de la plomberie,
la boulangerie, etc.
Et donc voilà, donc là j'ai passé 2 ans chez SFR, c'était trop bien. En plus, on m'a pour le coup donné très vite des grosses responsabilités, gérer un budget, gérer des magasins pour faire vendre des téléphones, des forfaits, des machins, etc.
Okay.
Et donc passionnant, vraiment très cool. Et puis après, je me suis dit ok, j'ai bien bossé, donc je vais partir pendant, avec ma copine à l'époque qui est devenue ma femme, je vais partir pendant 1 an faire le tour du monde. Évidemment, ça a bien fait rire mon entourage en disant t'es gentil, t'en as pas foutu une, t'as fait un BTS, une école de commerce ou t'en foutais pas une. Bon, ok, t'as été chez SFR, donc ce qui a démontré une certaine proactivité de ta part, mais c'est pas non plus, tu vois, tu sors pas de 3 années de prépa intense, quoi. Et bon, bref, et donc là, voyage, et ça c'était trop cool. Alors ça a pas du tout duré 1 an, finalement ça a duré 4 mois parce que j'ai aussi tendance à être un peu un panier percé, donc j'ai consommé en 4 mois ce que j'avais prévu de consommer en 1 an. Et donc retour au bercail, et là, dure réalité de trouver un boulot, quoi.
Salut à toutes et à tous. Petit aparté dans cet épisode, ici le Fab du montage. Je souhaitais tout simplement vous dire que on a eu, suite à ce petit bout de discussion, un long échange à propos de l'argent avec Guillaume, et que je me suis dit que j'allais prendre cet extrait-là et le mettre directement dans mon podcast Histoire d'argent, que je vous invite à aller découvrir en cherchant tout simplement Histoire avec un S, argent sans S, sur votre appli de podcast, ou alors en cliquant directement dans le lien dans la description, parce que je trouve que le rapport à l'argent de Benjamin est tout à fait intéressant et singulier, et puis ça peut aussi vous permettre, vous, auditrices et auditeurs d'Histoire du Succès, de découvrir ce podcast que j'adore, et j'ai vraiment des retours assez géniaux. Ça se passe donc tous les premiers et les troisièmes vendredis de chaque mois. Il y a un nouvel épisode où vous pourrez découvrir une discussion avec un ou une de mes invités où on discute d'argent. Voilà, fin de l'aparté. Je vous laisse pour la suite de la discussion avec Benjamin, et je vous souhaite une belle fin d'épisode. Merci beaucoup.
Là, je me confronte à la dure vie de rechercher du boulot en France en 2011. En tout cas, je ne sais pas si c'était particulièrement difficile en 2011, mais je ne trouvais pas de boulot. Vraiment, j'ai passé 4 mois à chercher du boulot. Et puis, j'ai fini par trouver un boulot de sales, en gros, dans une boîte qui installe des réseaux de fibre optique noire. À l'époque, à Paris, mais maintenant, ils le font partout en Europe. Donc, ça permet de relier des sièges d'entreprise, notamment avec des data centers, avec des fibres dédiées. Bref, un truc très infra, très, très tech, pas du tout moi. Et donc, je vends pendant 14 mois un truc, mais je sais même pas ce que c'est, je comprends pas à quoi ça sert et tout. Alors, parfois, j'ai des interlocuteurs qui trouvaient ça absolument génial, mais moi, j'étais pas du tout excité par ce produit, quoi. Mais je me suis dit, allez, c'est un bon exercice, faut que je me plonge dans le truc, faut que j'apprenne ce que c'est, comprendre, etc. Donc, j'ai réussi à faire quelques ventes. Après, l'ambiance dans la société était un peu particulière, et donc j'ai fini par organiser un départ dans la boîte.
Okay.
J'avais demandé une démission, enfin j'avais demandé en gros pour pouvoir toucher le chômage. Hein, et encore une fois, je voulais monter ma boîte, mais je voulais pas le faire sans chômage. Et donc,
rupture conventionnelle.
Je voulais une rupture conventionnelle. Et là, le boss me dit non, mais si tu veux monter ta boîte, t'assumes et tu te casses et tu fais comme un vrai entrepreneur et tu n'as pas l'argent. Et peut-être qu'il a raison, j'en sais rien, je m'en fous, j'ai aucune honte à le dire. Moi, il était absolument inconcevable que je me barre sans le chômage pour pouvoir monter une boîte. Et vu les salaires de l'époque, voilà, c'était pas un chômage extraordinaire. J'habitais dans 19 mètres carrés avec ma femme. Voilà, je vais juste, fallait juste que je puisse, tu vois, bouffer et voilà. Et donc, bah, on a fait un bras de fer. Et comme je déteste perdre, j'ai fini par le gagner celui-là aussi. Donc, s'il m'entend, ça va le faire enrager parce que je crois qu'il n'était pas très content. Ou j'en ai pas foutu une pendant au moins 2 mois peut-être au bureau, à jouer à Candy Crush aux yeux de tous. Et il a fini par dire ok, bon, vas-y, je te vire. Et donc, je me suis fait virer et ça m'a permis d'avoir mon dossier pour me lancer et demander le chômage.
D'accord.
Voilà. Et qui a été le point de départ. Donc, on est septembre, tout ça, ce licenciement, etc. Je crois que c'est septembre 2013. C'est au moment où on gagne. Quand je dis on, c'est que ce projet vient de mon ancien associé qui est venu me voir avec l'idée de créer un logiciel pour les auto-écoles. Et en avril 2013, à un dîner, et il savait que j'avais envie d'entreprendre. Et lui, pour moi, c'était vraiment un serial entrepreneur. C'était déjà sa troisième boîte. Enfin, ça aurait été sa troisième boîte. Il avait déjà 2 boîtes et machin. Il m'a dit, bah voilà, moi, j'ai déjà 2 boîtes. Ça, c'est un projet que j'aimerais bien faire, ce logiciel pour les auto-écoles. Mais je sais que tu veux monter une boîte. Peut-être qu'on pourrait s'associer ensemble, etc. Et moi, j'ai dit, ah, mais moi, m'associer avec toi, c'est un rêve. Donc, trop cool. Je suis chaud. On travaille un peu parce que je veux pas quitter ma boîte. Je venais de me marier. Je veux pas quitter ma boîte. C'est le truc par à la poubelle dans 2 secondes, quoi. Et donc, on bosse un peu dessus. En septembre, donc le mois où un peu tout se déclenche, septembre 2013, on gagne le concours 101 projets
qui
a été monté par Niel Grandjean et Simon Tsini. Il fallait avoir moins de 25 ans et c'était le 25 septembre et c'était une... Au début, c'était pas très clair. C'est une dotation de 25 000 euros. Finalement, ça s'est transformé en une avance convertible, quoi, un prêt convertible. Ce qui était normal, hein, mais c'était pas marketé comme ça au début, bon, peu importe. Et ça reste des entrepreneurs, et ouais. Ils sont là pour gagner du fric. Et aujourd'hui, je ne peux que comprendre. Je dis ça. Et donc, ça a été pour moi le point de départ. Hein, donc, okay, bon, finalement, même s'il n'y avait pas de classement, le jour de l'annonce des résultats des 101 projets, ils ont reçu, je crois, plus de 3000 dossiers. Il y en a genre 300 qui ont pitché. On avait 1 minute pour pitcher le projet. Et puis eux donnaient leur réponse sur Twitter, je sais pas moi, 2 semaines après. Et donc ils lancent avec, je me souviens très bien, c'est Marc Simoncini qui fait hashtag 001 Ornicard. Hashtag 002, je sais plus. Puis voilà. Sur les 101, on a été le premier cité sur Twitter. Et donc forcément, on a communiqué sur le fait qu'on était premier de ce concours. Et après, ils nous ont rappelé à l'ordre en disant non, il n'y a pas de classement, c'est pas l'état d'esprit du concours. Sur quoi je leur ai répondu, dans ces cas-là, il valait mieux commencer par ordre alphabétique, il y aurait eu moins d'ambiguïté. Bref, donc on a fini pas premier, mais hashtag 001 de ce concours, que pour moi j'avais assimilé comme être premier. Et je me suis dit, si ça, c'est pas le signal que j'attendais pour quitter mon boulot, en tout cas pour m'arranger pour que mon boulot veuille me quitter. Et voilà. Et donc, début décembre, on dépose les statuts de la boîte et Ornicard existe officiellement. C'est une coquille vide, hein, c'est une société déposée, il n'y a pas d'agrément auto-école, ce fameux agrément qu'on a mis tant de temps à avoir. Mais voilà, ça c'est les tout débuts d'Ornicard.
Avec un vrai objectif, déjà, il y a une histoire aussi où vous choisissez ce nom juste pour en faire une marque facile à retenir, quoi.
Ouais.
C'est ouf, quoi.
Ouais, on choisit
ça n'a rien à voir avec la cuisine, en fait, à la base.
Ah non, mais clairement pas. Non, on choisit ce nom parce que je me souviens, on était dans ces fameux 19 mètres carrés en train de prendre l'apéro. Et puis on fait la liste des noms, Ornicard passe et on voit que c'est prié qu'un C, on se dit oh, pff, c'est nul et tout. Bon, on continue, on dérouge pas moins des trentaines et des trentaines de noms. Et puis à la fin, on les a tous supprimés parce qu'ils étaient tous nuls. Et puis on est revenu sur celui-là en disant mais peut-être qu'on pourrait l'écrire autrement, peut-être avec un K. Parce que vraiment, les gens connaissent tous leur conjonction de coordination.
Mais où est donc Ornicard, quoi ?
Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on choisit notre nom. On se dit, bah, comme ça, les gens vont s'en souvenir, Ornicard. Et voilà. Et donc, Ornicard, c'est comme ça qu'on a choisi en se disant, bah, peut-être qu'un jour, Ornicard avec un C, je sais pas moi, disparaîtra. Et
disparaîtra. On viendra puis, Ornicard avec un K.
Exactement. Et puis, non, mais ouais. Et puis, effectivement, on a changé d'ambition. Et maintenant, on se dit qu'il faudrait que tu sais, un des signes de succès, c'est tout que tu fixes un peu au début avec des advisors. Je fais, qu'est-ce qui, pour vous, serait la preuve que votre aventure Ornicar fonctionne? Je me souviens, je sais plus si c'était mon ex-associé ou moi, et il dit, bah, le jour où les gens font des erreurs à l'école et ils écrivent Ornicar avec un K, c'est qu'on aura suffisamment marqué les esprits et qu'on sera déjà très gros, quoi.
Voilà, c'est à cause de vous que la langue française est en train de se faire.
elle progresse vers.
Elle
vers
évolue.
Plus de cas, vers plus.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ok, donc ça c'est le début de l'aventure. Tu quittes ton job et effectivement, tu parlais tout à l'heure très rapidement de ce fameux agrément d'auto-école. Ça, pour le coup, ça a été un parcours du combattant et c'est faible. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un euphémisme de dire comme ça, quoi.
C'était compliqué. En fait, pour être une auto-école, c'est une profession réglementée, donc il faut avoir un agrément d'auto-école. Un agrément d'auto-école, à l'époque, le dossier n'était pas très compliqué. C'était un local de 25 mètres carrés, une voiture double commande, un lecteur DVD, une télévision. Et dans le local, il devait y avoir une pièce pour attirer les élèves et une pièce pour réviser le code de la route sur cette fameuse télévision lecteur DVD. On est en 2013 et on demande encore un lecteur DVD. Enfin, c'était mais lunaire. Bref, pas très compliqué. Hein. A priori, on trouve un local, on s'achète une télévision, un lecteur DVD. Bon, bref, hyper simple. Et puis, on dépose notre dossier un peu naïvement, en se disant, bah, tout va bien. Sachant qu'on le dépose début janvier 2014. Et on avait déjà eu un peu de presse sur le fait qu'on avait fini 001 de 101 projets.
Ouais, donc, vous étiez déjà
visible. Un tout petit peu connu. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a un article qui a mis le feu aux poudres dans L'Opinion. L'Opinion était un très, très jeune média quand on s'est lancé. Et titre, c'était plus en couverture. Mais enfin, c'était dans un article, une page de L'Opinion, avec une citation avec Ornicar, on veut mettre fin aux rackets organisés des auto-écoles traditionnelles. Mmh. Alors évidemment, on n'a pas trop maîtrisé notre com parce qu'ils n'étaient pas très contents, les auto-écoles traditionnelles.
Et c'est ça que vous avez dit, clairement.
Ah ben c'est ce qu'on avait dit, oui. Ouais, bien sûr. Bien sûr ce qu'on a dit, mais on, voilà, j'ai vous, pas sans le penser, mais c'était surtout un peu facile, un peu gratuit. Mmh. Et donc là, ça a mis le feu aux poudres parce qu'on a demandé notre agrément. Et puis, on a découvert ensuite que bon, le dossier était constitué, facile. Et puis, qu'est-ce qui donne l'agrément, la décision de donner l'agrément ou pas? C'est un comité qui est composé des gens de la préfecture. À Paris, c'est la préfecture de police. Et puis, à l'époque, des gens des syndicats des auto-écoles traditionnelles.
Donc, vous étiez mal barré.
Et on était mal barré, évidemment. Tout le monde a dit, mais si jamais vous donnez l'agrément en plein comité, si vous donnez l'agrément à Ornicar, avec ce qu'ils ont dit, etc., vous nous lancez un message d'appel à la guerre et on va se mettre dans la rue et tout bloquer, etc. Et l'administration, dont on peut parfois douter de son courage, a dit non, vous inquiétez pas, on va mettre le dossier sous la pile. Et cette pile, elle a duré 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi, ils n'ont pas voulu nous donner le dossier sans nous donner de raison. Et donc normalement, c'est justifié par un refus. Mais à l'époque, la loi, il n'y avait pas le silence vaut accord moyennant X temps, il y avait le silence vaut refus. Et donc, ils avaient juste à ne pas nous donner de réponse. Et donc, tout ça, ça a duré 2 ans et demi.
Qu'est-ce que vous faites pendant ces 2 ans et demi? C'est tellement long.
Ouais, c'est très long. Ce qui fait que parfois, il y en a qui disent, ça va.
Parce que votre boîte, elle n'est pas lancée, en fait, pendant
non,
ce
non,
temps-là.
Non, elle n'est pas lancée. Alors, elle n'est pas lancée. On fait quand même pas mal de médias. Hein, donc, on fait 300 parutions presse les 6 premiers mois d'activité. On n'a pas de clients. On a un site vitrine où tu peux rien acheter. Tu peux rentrer ton mail où on te préviendra quand on sera lancé.
Waouh.
Et
vous avez combien de mails alors sur cette liste à l'époque?
7000, 7-8000.
C'est fou, quoi.
En tout cas, c'était assez motivant. Et puis on fait pas mal de presse. Donc il y a ce procès-là. En gros, ils nous attaquent en justice, les auto-écoles, pour exercice illégal de la profession. La vérité, c'est qu'on n'exerçait rien du tout. C'était juste un site vitrine. Mais bon, ils n'étaient pas très à l'aise avec les concepts de site internet, site vitrine, internet tout court d'ailleurs. Et ils nous attaquent. Et le procès se passe en juin 2014, donc 6 mois après notre création. Et on gagne le procès, on le gagne partiellement, mais on prépare la nuit d'avant de la décision, et on prépare avec notre avocat de l'époque, il me dit, on va préparer deux communiquer. Un où grosse victoire, machin, etc., incontestable, et puis l'autre où victoire un peu plus mesurée, machin. Et donc la décision tombe. Notre gentil avocat de l'époque, mais qui est toujours notre avocat aujourd'hui, fait le pied de grue devant le tribunal de commerce de Paris. Je crois que c'est Quai de Corse, et obtient la décision, et donc on gagne partiellement. En gros, on a le droit de proposer notre formation au code de la route en ligne sans avoir d'agrément. En revanche, on n'a pas le droit de donner des prix des heures de conduite parce qu'on n'a pas d'agrément. On n'a pas le droit de faire publicité sur les prix. Bon, bref, c'est vraiment très technique. Mais nous, et donc là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on prend comme communiqué ? On a pris celui, on gagne tout. Et alors là, on envoie le communiqué à l'ensemble des médias de la Terre sur le fait qu'on a tout gagné. Et alors là, ça prend comme une traînée de poudre. Et là,
vous êtes quand même des sacrés barbouzes.
Ah ouais, c'était vraiment un truc de bandit.
Mais pourquoi vous faites ça ?
Parce que on est dans un mindset. Et moi, c'est aujourd'hui qui suis maintenant business angel. C'est quelque chose que je demande aux boîtes dans lesquelles j'investis, en tout cas que je sonde. On est des éternels optimistes. Voilà. Et on est optimiste. Et donc, une mauvaise décision, c'est une bonne décision au final. Okay. Il faut que le marché le comprenne comme ça. Et donc, moi, aujourd'hui, je transforme toutes les décisions en bonnes décisions. Dès qu'il y a une tuile avec Ornica, je le passe dans la moulinette. Et je dis, OK, en quoi c'est une opportunité ? Le Covid, énorme opportunité. Mais le lendemain de l'annonce du Covid, je remotivais les troupes en disant, c'est ce qui peut, professionnellement parlant, j'insiste, hein, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. Voilà. Alors qu'au début, je galérais un peu en disant, OK, bon, y a forcément une bonne nouvelle derrière ça, mais j'avais du mal à la trouver, quoi. Et donc, voilà. Et donc ça, c'est mon état d'esprit. Et donc cette décision de justice, bah oui, OK, on va retirer les prix sur Internet, mais je veux bien que l'ensemble des médias et l'ensemble des gens qui vont lire les articles comprennent qu'on a tout gagné, quoi. Et donc voilà, et donc on fait 200 parutions presse cet été, mais c'était mon téléphone, mais j'avais des journalistes qui m'appelaient, j'ai 24 ans à l'époque, et les journalistes m'appelaient, et j'avais, je sais pas moi, 12, 13, 15, 20 messages non lus pendant que je faisais une interview avec un mec, c'était hallucinant. Mais à croire que vraiment, on avait gaulé des SK en plein acte, quoi. C'était wow. Vraiment le truc de la Terre, quoi. Et on fait des plateaux télé, on fait des plateaux radio, et puis...
Qu'est-ce qui fait qu'il y a un succès comme ça, tu crois ?
Bah, les gens détestaient les auto-écoles. Et donc la petite boîte qui se fait, la petite boîte disruptive par des jeunes qui sourient, qui veulent baisser le prix du permis de conduire, qui sont attaqués par les gros syndicats d'auto-écoles méchantes, etc. Ça, les journalistes adoraient ça.
Okay.
Et en fait, il y a un sujet, on a gagné 14 concours sur 15 présentés, on les a tous gagnés, les concours.
C'est très Astérix, hein.
Complètement. Et en fait, il y a aussi un truc, c'est que ces gens-là, donc les journalistes, les membres du jury de concours, ils connaissent tous quelqu'un qui est dans une auto-école et pour qui il galère parce que l'auto-école ne veut pas lui rembourser tel truc et tout. Et donc chacun, ils avaient l'impression de prendre un peu leur revanche.
Ah oui.
Et les journalistes, c'est pareil, ils t'appellent, ils disent « Mais ouais, mais moi ça ne m'étonne pas, heureusement que vous êtes là, parce que moi, mon petit neveu Kevin, là, il est en train de se faire mettre bien profond là, parce que machin, etc. » et donc, une espèce de sympathie, parce que les ennemis de mes ennemis étant mes amis, et bah voilà. Et ça a pas mal donc sollicité les médias qui étaient contents de voir ça. Et puis, on a même fini le 29 août avec, en faisant la une du New York Times, pour te dire à quel point ça a pris des proportions démesurées. Tu vois, on n'avait toujours pas de clients.
C'est que j'allais dire, votre boîte, elle est toujours pas lancée pendant ce temps-là.
C'est une coquille vide, quoi. Et on fait, pour le coup, la une du New York Times. La une, en disant, évidemment, c'était une satire de la politique française, comment en France, les boîtes qui essayent d'améliorer les choses se font empêcher d'exister par une régulation, trop compliquée, etc. Bon, bref, c'est évidemment. Et suite à quoi, on se fait convoquer à l'Élysée, parce que interdiction de faire du French bashing. Donc, on se fait taper sur les doigts comme une maîtresse d'école. Là, c'était le principal du lycée qui nous appelle et qui vient nous dire, c'est pas bien, vous avez dit du mal de la France à l'étranger, attention, c'est pas gentil, etc. C'est à quoi on leur a dit, non, mais attendez, moi déjà, je m'en tape de ce que tu me racontes. Si tu veux, je raconte une belle histoire sur la France, à toi de nous donner de quoi raconter une belle histoire. Là, tu nous bloques parce que tu as peur des syndicats, etc. Donc, c'est même pas la peine. Je ne suis pas achetable sur ce sujet-là. J'adore mon pays, mais je le défoncerai autant qu'il me donne l'occasion de le défoncer si jamais il m'empêche de créer une boîte qui a vraiment un vrai intérêt public, quoi.
Je lisais un article sur toi dans La Nouvelle République, journal local, n'est-ce pas ?
Retour aux sources.
Qui dit qu'en fait, vous finissez par... Il se murmure, alors j'adore vraiment le langage de la PQR, il se murmure dans le Landerneau qu'il a fallu l'intervention express du ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, pour débloquer la situation.
Ouais, non mais c'est vrai, la phrase est joliment tournée. Non, mais c'est vrai, alors à l'époque... À l'époque, déjà, on lève des fonds grâce à cette surmédiatisation. Pour nous, ça a été une formidable opportunité de lever des fonds. Donc, on lève 1,5 million d'euros. On n'a toujours pas de clients.
C'est fou, ça, quand même.
Hallucinant.
Mais comment vous le vivez ? Ouais, ça, vous êtes
là. Je lève pas de fonds. Moi, je cherche rien. Il y a des fonds qui m'appellent en disant mais tout le monde ne parle que de vous, machin, etc. Le marché, c'est génial, etc. On va investir. Au bout d'un moment, les gens te forcent à accepter 1,5 million d'euros.
Wow.
Tu dis bon, vas-y, je vais le prendre. Et puis, là, eux, c'était à traverser le désert parce qu'ils ont investi en novembre 2014. Et donc on a eu l'agrément deux ans après.
Ok.
Et donc chaque board, parce que quand vous avez des fonds d'investissement au capital, et ben on organise des conseils d'administration, on les tient au courant régulièrement des avancées de la boîte. Et ben il y a des boards, on se faisait bien chier parce que les avancées,
il y avait rien.
Alors on a quand même, parce que ça se finissait pas les galères.
En revanche, il y avait une belle revue de presse.
Ah, ça, ils étaient contents, on gagnait plein de concours, on était noirs, on est bêtes de concours, plein de presse, mais toujours pas d'argent. Et on décide quand même de dire ok, bon, on lève 1,5 million, qu'est-ce qu'on fait? Alors on a fait beaucoup de conneries, mais on a fait un truc qui n'était pas une connerie, c'était pas une décision, on n'avait pas le choix. Et on s'est dit bon, on va au moins commencer le code de la route, puisqu'il y a des décisions de justice nous a dit qu'on pouvait faire du code de la route sans avoir d'agrément. Et on va voir donc les éditeurs que tout le monde connaît, Code Rousseau, après on en connaît bien, mais ENPC, donc c'est Édition Nationale du Permis de Conduire, et Deezer, bon, bref, qui sont des solutions informatiques, enfin des éditeurs de questions de code.
Okay.
Et puis on va les voir et ils nous disent non, mais j'ai reçu un courrier des auto-écoles traditionnelles, des syndicats.
Aïe.
Et ils nous ont dit le premier qui bouge avec vous, on demande à toutes nos auto-écoles partenaires, adhérentes, de partir de chez vous. Et donc les mecs un peu emmerdés en disant bah, vous aujourd'hui, vous voulez nous prendre, je sais pas moi, 200 licences par mois.
Ouais.
Bon, ok, c'est cool, mais en vrai, si on part avec vous et qu'on en perd 40 000 par mois, vraiment, c'est vraiment la merde, quoi. Et donc, ils nous ont dit, bah non, on peut pas.
Comment t'as transformé ça en bonne nouvelle?
Et bah là, j'ai dit, bah déjà, j'aime pas qu'on me dise non, donc je les attaque tous en justice.
Okay.
Donc j'ai dit, ok, bah, ça s'appelle du refus de vente, les gars, donc ça a saigné. J'ai un avocat qui avait la dalle, donc je dis, bah, puis surtout, j'avais 1,5 million d'euros. Et là, je dis à l'avocat, bah vas-y, tu me les attaques tous là, t'envoies des courriers, des machins, des mises en demeure, tout ce que tu veux. En fait, je m'en fous, je suis pas expert. Mais je veux que tout le monde tremble, quoi. On ne refuse pas à Ornicard le fait de pouvoir commercialiser les produits de quelqu'un d'autre. Un peu d'ego là-dedans, hein. J'ai appris après à le mettre de côté, mais c'est des décisions un peu drivées par l'ego. mais je me suis dit, bah, c'est pas grave, de toute façon, le temps de la justice n'est pas le temps de l'entreprise et encore moins celui des startups. Donc je vais développer notre propre question de code, enfin notre propre logiciel du code. Et là, on demande à des enseignants partenaires de s'acheter une GoPro qu'on leur paye et d'aller sur les routes, prendre des photos, de rédiger les questions. On fait tout revoir par effectivement un prof de français pour être sûr qu'il n'y a pas une faute de syntaxe ou quoi que ce soit. Et puis en mars 2015,
un logiciel de code de la route, c'était quand même votre idée première à la base.
Notre idée, c'était d'être une auto-école en ligne. Donc, okay. Mais on s'est dit, bon, on s'en fout, ça existe déjà, il y en a qui le font très bien.
Okay.
On va acheter leur contenu et puis on va vendre leur contenu, quoi. Sauf qu'ils ont refusé, donc on a créé notre contenu. Et là, on lance en mars 2015, on lance notre première offre de code de la route. Donc en mars 2015, c'est la première fois qu'on rentre des euros de chiffre d'affaires dans Ornicard. Donc il y avait quelque chose à raconter au conseil d'administration. C'était un peu la teuf, mais toujours pas d'agrément. Et surtout, ce qui devait se passer. C'est-à-dire qu'on a des clients qui sont arrivés qui ont dit bah, moi, c'est bon, j'ai le code, maintenant je voudrais passer la conduite avec vous. Et là, on se dit, non, la conduite, on n'a toujours pas d'agrément, on ne peut pas le faire, on vous invite à aller dans une auto-école traditionnelle. Puis une semaine plus tard, le mec nous rappelle en disant, mais j'ai fait 3 auto-écoles traditionnelles, comme j'ai passé le code avec Ornicard, ils ne veulent pas me prendre en tant que client chez eux.
Super.
Et alors là, on se dit, merde, parce que ça peut faire un bad buzz, quoi. Si le fait que tu sois passé pour ton code chez Ornicard t'empêche d'avoir accès à une auto-école traditionnelle alors qu'on n'a pas d'agrément pour l'instant pour faire la conduite, ça risque de pas bien se passer pour notre image, quoi. Et là, on est en été 2015 et il y a la loi Macron, qui était ministre de l'économie, sur les professions réglementées. Et on arrive à faire changer la loi et à faire améliorer la loi en concertation avec les cabinets Macron, cabinet du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, etc. Qui permet en gros l'émergence de nouveaux modèles. Et donc, voilà. Mais là-dedans, on travaille un peu pour nos concurrents qui, entre-temps, sont arrivés. Donc des concurrents auto-école en ligne, qui ont juste copié-collé notre modèle, mais sauf que eux ont été plus malins que nous, ils ont fait du bruit après avoir eu leur agrément. Donc ils ont dit non, mais on a une auto-école rue Tartampion, t'inquiète, donne-moi l'agrément. Puis le jour où ils ont reçu l'agrément, on dit non, mais on est auto-école en ligne en fait. Et voilà, et donc on était comme des cons, et les fonds qui nous disaient, mais je comprends pas quoi. Et c'est déjà c'est la troisième auto-école en ligne qui a son agrément, et vous l'avez toujours pas, donc a priori vous êtes pas très bon dans l'exécution, quoi. Et bref, et donc là, on.
C'est parce que vous aviez fait les malins.
Exactement.
C'est le recul.
L'ego.
Ouais.
On a fait les cakes avant. Et bref, donc là, on est. Donc là, bref, la loi Macron permet l'émergence de nouveaux modèles, mais on n'a toujours pas notre agrément, donc ça nous fait une belle jambe. Mais il a laissé une ouverture, mais un peu sale, et donc on pivote. Et on fait de la location de voitures double commande avec prestation d'enseignement à titre bénévole. L'agrément, que j'arrive pas à avoir, nous permettait de nous faire rémunérer pour la prestation intellectuelle d'enseignement de la conduite. Et on a dit à nos enseignants, eh ben, qu'à cela ne tienne, vous n'êtes plus des enseignants, vous êtes des loueurs de voitures double commande. Donc, l'argent que vous preniez pour votre prestation d'enseignement, vous allez la prendre avec un nouveau statut, vous allez la prendre pour la location de votre bagnole, vous êtes dans la voiture, et puis comme vous êtes sympa, vous allez donner des petits conseils à titre gratos, quoi. Bon, c'était vraiment...
C'est un peu tiré par les cheveux.
C'est très tiré par les cheveux, et donc on devient la première et la seule, la première et dernière plateforme de location de véhicules à double commande avec prestation d'enseignement bénévole. Donc évidemment, notre site voulait plus rien dire, c'était n'importe quoi, mais peu importe, c'est un pivot qui nous permet d'annoncer, contre toute attente de nos chers détracteurs et même de l'administration et du gouvernement, on commence à faire, en une semaine, la première semaine de septembre 2015, on fait les 3-4 JT des chaînes qu'on connaît, avec lancement de la conduite pour Ornicar, incroyable, révolution, etc. Et là, personne ne comprend. Mais comment ? L'administration dit, mais je leur ai pas filé d'agrément, comment ils font la conduite ? C'est des ouf. Les mecs, ils disent à tout le monde qu'ils font la conduite, alors qu'ils ont pas d'agrément et tout. Et donc, évidemment, je reçois mon téléphone, sonne dans tous les sens, mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous allez finir en prison et tout. Mais pas du tout, monsieur, regardez le texte. On a étudié la loi, la prestation d'enseignement est à titre bénévole et tout. Bon, je dis, les mecs, c'est des politiques, donc ils connaissent pas forcément la loi par cœur, je leur en veux pas. Et en revanche, il y a un syndicat qui connaît pas non plus la loi par cœur, mais qui dit, je vais quand même les attaquer en justice. Alors, c'est marrant, quand c'est moi qui fais les procès, ça dure des années. Mais alors, quand c'est des concurrents qui font des syndicats d'auto-école traditionnels qui font des procès, ça a duré très, très peu de temps. Et donc, ce qui m'a référé, je sais plus quoi. Et là, la fête est finie en décembre 2015. Et là, c'est très compliqué. Là, c'est vraiment la nouvelle la plus compliquée à expliquer et à transformer en bonne nouvelle. on perd. Ça s'appelle un abus de droit quand on prend plein de morceaux de loi pour en faire notre propre interprétation. Ça s'appelle un abus de droit et c'est pas autorisé. Et donc, on perd. Et là, les médias, pour le coup, titrent tous. Mais tu sais, là, parfois, tu vas dans une petite ville de province. Je suis pas sûr que tu es ça à Paris, mais tu as des petits supports où tu as la photo du journal devant. Et donc là, c'était partout. Moi, je me souviens, j'étais à Nantes à ce moment-là, cette journée-là. Et puis partout dans la ville, quand je me baladais, je voyais sur le petit truc qui est monté sur ressort, Ouest France, qui disait fermeture de l'auto-école en ligne Ornicar, suite à sa défaite au procès. Les syndicats, évidemment, qui font péter le champagne et tout. Et on perd, quoi. Et là on est vraiment dans la merde. Parce que on a des clients, les fonds, et puis si l'opinion publique pense qu'on ferme, tous les clients nous appellent en disant « Mais il faut me rembourser, moi j'avais payé 20 heures, remboursez-moi. » Alors là, c'est vraiment une gestion de crise. Et puis en plus, à ce moment-là, je me brouille avec mon premier associé. Et donc, décembre 2015 est pour moi le pire mois professionnel de ma vie, quoi. Et donc,
vous n'êtes pas d'accord sur vouloir rentrer dans.
Non, on n'est pas d'accord sur la vision. Mais... On n'est pas d'accord sur la vision. En fait, on a fait une erreur, c'est qu'on s'est séparé de ville. À la base, on a lancé Ornicar à Paris et lui a voulu aller à Nantes. Moi, je m'y opposais pas du tout au début. Et puis, en fait, loin des yeux, loin du cœur et loin de la vision. Et donc, la vision a divergé. Puis, il y a eu un moment, on se retrouvait plus du tout sur la vision et on a dit, en fait, il faut que.
Parce que toi, t'étais à Paris et lui, il était à Nantes, exact. C'est ça, vous étiez à
exact.
Distance.
Ok. Et donc voilà.
Intéressant ce truc de loin des yeux, loin du cœur.
Là-dessus, moi, c'est un vrai enseignement, ça, et le fait d'être à 50-50. Compliqué parce que.
Vous étiez à 50-50 ?
On était à 50-50. Donc, quand t'es pas d'accord sur la vision, heureusement, on avait levé des fonds. Enfin, heureusement pour moi, on avait levé des fonds. Parce qu'on a fait appel aux fonds, et les fonds, on dit, OK, on va auditer la boîte. Enfin, la boîte, il n'y avait que dalle à auditer. Hein, elle avait finalement même pas une année d'activité. Donc, tu vois, alors la ligne Ornicar dans les fonds, ils commencent à nous saouler, Ornicar, ils font pas de business, en plus ils se mettent sur la gueule, ça commence à nous saouler.
Oui.
Mais ils font quand même le taf, gentiment, et ils font l'audit de la boîte. Et puis finalement, ils décident de dire, on a plus confiance dans la vision de Benjamin. Donc voilà.
On peut donner un conseil, hein, ne faites jamais 50-50.
Non, 50-50, c'est une erreur. Il faut qu'il y ait un chef.
Ouais, 51-49 minimum. Quoi.
Exactement. Il faut que, quand il y a une décision où vous n'êtes pas d'accord, il faut qu'il y en ait un qui dise, en fait, je suis désolé, mais c'est moi le boss. Donc, faut que ça arrive le plus rarement possible, mais ça ne peut pas ne jamais arriver. S'il y a deux personnalités fortes, etc., c'est très compliqué d'être toujours d'accord. Donc voilà, moi, je déconseille le 50-50, mais ça, et puis soyez ensemble à côté. Alors aujourd'hui, effectivement, on est plus habitué au télétravail, etc. C'était moins le cas en 2013. Peut-être ce conseil vaut moins aujourd'hui, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quand même plus simple d'entreprendre avec un associé et d'être à côté physiquement de cet associé pour pouvoir, en fait, en permanence échanger, aller déjeuner, prendre un café, j'en sais rien, n'importe quoi. Donc voilà, là, on est
janvier 2016.
Janvier 2016, et c'est la merde. Donc je m'associe avec le premier salarié de la boîte qui est aujourd'hui mon associé, Flavien. Et en fait, avec qui on récupère Arnicard. Enfin, lui, il récupère Arnicard, parce que moi, j'en suis complètement coupable de cette situation. Les journaux titrent que c'est la merde, en gros, confirment. On est dispute avec les associés. Mon associé avait toute la partie tech sous lui, donc évidemment, des amours de la partie tech, parce que eux préfèrent que ça soit mon associé de l'époque qui reprenne la boîte. Bon, bref. On n'a plus de cash, évidemment, ça serait pas drôle sinon, parce qu'on a bien cramé. Hein, on a fait des séminaires très cool. moins de croissance, mais pas mal de séminaires. Et puis, et voilà. Et on est janvier 2016.
Ton histoire, on dirait le loup de Wall Street, en fait, jusqu'à.
Ouais.
Non, mais c'est
vrai. Je suis à plus de la fin, mais je me demande s'il finit pas en prison.
Il finit pas bien. Il doit de l'argent, beaucoup d'argent.
Okay. Bon, a priori,
c'est pas ton cas.
Mais... J'ai pas trop de tête. Mais, et donc là, c'est la merde. Et avec Flavien, on récupère cette boîte-là. Et puis Flavien, c'était son idée depuis le début en disant, mais cette idée de, enfin, cette histoire d'agrément, enfin, d'enseignement, un titre non bénévole, machin, etc., c'est vraiment bancal. Parce que nous, à la fin, on s'était même dit, putain, mais super, on fait même plus besoin d'agrément, on sort de la réglementation, on va rester une plateforme de location de voitures à double commande, machin. Et bref, et là, il m'a dit, non, mais on n'a pas le choix, on doit redemander un agrément et tout. Et donc, on se dit, bah ok, janvier 2016, on reprend la boîte dans l'état dans lequel elle est, sans argent. Les investisseurs me disent, non, évidemment, tu n'auras pas d'argent en plus. Parce que moi, je leur ai dit, très bien, vous me faites confiance, vous me redonnez la boîte, mais il va falloir passer à la caisse parce que moi, je ne peux rien faire, quoi. Et là, on fait une blague d'investisseurs qu'à l'époque, j'ai pas compris que ça m'a. D'ailleurs, ça m'a beaucoup énervé. Et ils m'ont dit, tous un peu morts de rire, tu verras, sans argent, on prend de bien meilleures décisions. Et là, j'ai dit, non, mais putain.
En tant que gars qui a fondé une boîte autofinancée depuis 15 ans, je te confie.
Ah, mais c'est. Non, mais.
Et après coup... moins de séminaires.
Ah, mais c'est clair. Après coup, ils avaient entièrement raison. Ouais. Et donc là, on prend des décisions où. Tu vois, on n'a plus d'argent, donc on ne paye plus nos fournisseurs, machin. Et moi, en parallèle, je négocie. Donc, on fait un dossier de dépôt de demande d'agrément. À nouveau, historiquement, on l'avait fait à Paris. Et là, on se dit, on va être plus malin. Alors, vraiment, c'est vraiment Obélix dans la file pour aller voir la potion magique. On va être plus malin. On va changer de préfecture. Donc, on est allé à Nantes, parce qu'on avait un bureau à Nantes, celui de mon ex-associé. Et on va changer de nom. On va plus s'appeler Arnicard, comme ça, ils vont pas nous reconnaître. Et donc maintenant, on s'appelle, si tu vas sur société.com, etc., même d'ailleurs dans le Next 40, là, Next 40 qui a été annoncé la semaine dernière, on voit Marianne Formation, quand même, tiré ou entre parenthèses, Arnicard. Et c'est qu'à l'époque, on a changé notre dénomination sociale, on s'est dit, on va prendre le nom le plus passe-partout, un peu momoche, et puis on va demander un agrément.
Marianne en plus, vraiment.
Ah, mais on est, évidemment. En fait, on nous avait appelé les Robin des Bois du permis de conduire, donc on s'est fait notre petite blague. Notre back-office s'appelle Sherwood, enfin bref. Donc il y avait toute une vanne autour de Robin des Bois. Et donc, Marianne Formation, on va déposer notre dossier, trop fier de notre petit contournement, etc. Mais. Je te jure, 2 heures après, je reçois un appel du ministère de l'Intérieur qui dit alors, on a bien vu votre demande.
2 heures après.
Ah, mais on s'est remonté tout de suite en disant il y a Guignot qui demande un agrément.
Il est de retour.
Guignot, et ça nous dit quelque chose. Mais c'était vraiment, je te dis, c'était Obélix qui avait mis une perruque. Quoi. Ouais. Non, mais, en fait, on t'a reconnu. Quoi. Et là, donc, là, je le dépose en janvier. Et là, il me dit normalement, ils ont 3 semaines pour répondre. Et là, pas de réponse. C'était dur. Bon, en parallèle, on n'a plus d'argent, donc je dois négocier un plan B. Donc, je vais voir cette gentille BPI, Banque Publique d'Investissement, qui est une vraie aide pour les startups. Et je lui dis, non, mais là, j'ai besoin de sous parce que je suis vraiment, vraiment dans la merde. Et là, ils me disent, OK, ce qu'on va faire, c'est que le jour où tu es capable de nous présenter cet agrément auto-école que tu nous promets depuis tant de temps, on te fait un prêt de, je sais plus, c'était 400 000 euros. 400 000 euros, c'était parfait. Vraiment, c'était exactement ce dont je voulais, ce dont j'avais besoin. Et voilà. Donc, j'avais un agrément qui valait 400 000 euros que je devais avoir. Et donc, autant dire qu'un agrément de 400 000 euros, je me suis bien battu pour l'avoir. Et donc là, on n'avait plus trop de... On avait encore une fois, plus de sous. Donc, les derniers sous, on a envoyé des lettres de mise en demeure, de procès, d'avocat, de je sais pas quoi, à la terre entière, en disant... Maintenant, il faut nous donner notre dossier. Notre dossier est complet. Vous n'allez pas nous refaire le même coup qu'à Paris. Vous avez déjà agréé 3 autres auto-écoles en ligne. Donc maintenant, vous nous emmerdez pas. Il est, tu vois, il se murmure aussi qu'on a fait un peu de... Tu vois, tu joues avec tes armes, hein, t'as plus d'argent, donc tu fais vraiment politique de la terre brûlée. On a dit, écoutez, on a des histoires pas marrantes à raconter sur comment a été mené certains trucs. La BPI qui finance une boîte qui est bloquée par le même gouvernement de l'époque. Parce qu'elle nous avait pris un 500 000 euros de prêt, tu vois, sur une boîte qui n'avait pas d'agrément. C'est l'argent des Français, tu vois. Bon. Et donc, on commence à dire, voilà, mais peut-être que les médias, ça les intéresserait, tu vois. Et,
on se bat avec nos armes.
Et là, c'était vraiment lâche, quoi. On se dit, bah voilà, nous, on balance tout, quoi. Si jamais on meurt, on va mourir.
Mais ça fait combien de temps que t'es dans cette boîte? 3 ans, c'est ça, à l'époque?
Là, ça fait 3... Ouais, ça fait 3 ans. 3 ans, et on se bat juste pour exister, quoi. Et puis finalement, notre ancien lobbyiste, parce que c'était notre ancien, on n'avait plus les moyens de le payer, un peu comme dernier service rendu, était en rendez-vous avec le cabinet Macron, voir Emmanuel Macron en personne, quand il était ministre de l'économie, et en lui disant, vous étiez sur un autre sujet, je crois que c'était le travail le dimanche, et dit, tu vois, un peu en dernier ressort, hein, bah d'ailleurs, Ornicard, ça n'a pas fort et tout, et là, Emmanuel Macron dit, mais je comprends pas, on a fait une loi pour permettre l'émergence de nouveaux modèles, ils ont toujours pas l'agrément, ils étaient pas au courant. Ils ont toujours pas l'agrément, mais c'est une honte, je comprends pas. On fait des lois, personne ne respecte rien dans l'administration et tout. Il dit ok, il appelle devant mon ex-prestataire, il appelle Bernard Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, et il lui dit « je comprends pas », enfin il va que ça gueule un peu, et « je comprends pas, est-ce que le dossier d'Ornicard, il est conforme ou pas au texte ?» Et en face, il dit, bah oui, il est conforme, mais tu sais bien, ça va foutre la merde et tout, les autogrèves vont faire des manifestations et tout. Et là, il a répondu cette phrase qui est, moi, je n'accepte pas en tant que ministre de l'économie que l'administration régule l'économie. Si jamais le dossier est conforme, que la concurrence se fasse et tu lui donnes leur agrément, et je veux plus entendre parler de cette histoire, etc. Et 2 semaines plus tard, on était à la préfecture de Nantes, tout sourire, ça faisait quand même 3 ans qu'on attendait. On nous donne notre agrément en disant, mais ils étaient quasiment avec une batte de baseball, en disant, vous communiquez sur le fait que vous avez votre agrément, on vous tabasse. Vous faites les malins, vous souriez même là tout de suite. Si tu te mets à sourire, je te jure, je te défonce. Et ouais, on était avec mon ex.
T'exagères un peu, tu sais.
Avec mon associé, c'était hallucinant. Enfin, voilà, honnêtement, c'était que des menaces, en disant on vous le reprendra, machin, etc. Bref, et même
mais ils avaient sorti une en fin... fait, quand on y réfléchit un peu, c'est effectivement, en fait, ils vous en voulaient parce que vous aviez cette fameuse phrase dans l'opinion, quoi. C'est...
Alors ça, c'était, ouais, ça c'est les syndicats. Les syndicats nous en voulaient parce que déjà, on s'attaquait à leur marché. Et donc, sauf que l'administration a pas toujours peur des représailles, mais elle a très peur des professions véhiculées. Okay. Une profession véhiculée, c'est une profession qui peut te bloquer ta ville.
Ah oui.
Et un préfet, il a pas envie que sa ville soit bloquée, il a pas envie que son département soit bloqué. Et donc, il se dit, nanana, mais moi, pour la paix des ménages, je préfère faire un peu emmerder les petits start-upers, là. Et donc, voilà. Et donc, on a fini par avoir cet agrément, et on est le 31 mars 2016. Et on rentre à Paris dardard et on fait une teuf dantesque avec notre équipe pour fêter cet agrément. Et donc, les 400 000 euros pour nous permettre de nous relancer et payer les salaires de la BPI. Et voilà. Et donc, c'est finalement le vrai point de départ d'Ornicard, tel qu'on le connaît aujourd'hui. On rechange notre modèle économique, on redevient une auto-école et plus un loueur de voitures double commande avec prestations d'enseignement bénévole. et voilà un peu les débuts d'Ornicard. Et depuis, je ne dirais pas que la vie est un long fleuve tranquille, mais... Et voilà, depuis, les syndicats se relaient pour nous mettre des procès régulièrement pour justifier à leurs adhérents qui sont en train de faire des choses. Mais en vrai, ils ont perdu 100% de leur dernier procès. Et d'ailleurs, ils y consacrent plus beaucoup d'énergie, quoi. Il n'y a plus rien. Les attaques sont vides. C'est juste dire, bah voilà, regardez, il y a toujours une procédure. Faites-nous confiance, continuez à payer nos frais. Et voilà. Et au lieu de conseiller à leurs adhérents d'innover, ils ont préféré leur dire, vous inquiétez pas, on s'occupe des innovateurs. On va tuer toute innovation, ce qui fait que votre modèle sera pérenne ad vitam. Bah non, ça marche pas comme ça, quoi.
Et toi, de ton côté, bah ça fait maintenant donc depuis 2016, c'est ça que la boîte grandit. Là, t'as fait une levée de fonds assez dingue il y a un an, c'est ça?
Ouais, en avril, on a levé 100 millions avec KKR. La boîte grossit. On a même élargi notre secteur d'activité parce que. Il y a un truc qui te renforce, c'est la phrase toute bête de tout ce qui te tue pas te rend plus fort. Nous, on est sortis de cette shitstorm, comme disent les Américains, en disant, ok, on n'en a pas autant pris plein la tronche pendant 3 ans. pour faire le leader des auto-écoles en France, quoi. C'est vraiment pas du tout notre ambition, quoi. Donc on va les taper, mais vraiment un truc de cochon. On va être le leader mondial de l'accès à la mobilité, enfin un truc qui est beaucoup plus inspirant, etc. Et on va sortir nos frontières le plus vite possible, on va sortir du métier d'auto-école uniquement le plus vite possible, et voilà. Et donc on a lancé l'assurance en 2020, septembre 2020.
Donc là, maintenant tu vends des assurances auto.
Ouais,
pour garder le lien avec
Exact. Je suis courtier en assurance auto, et en gros mon objectif, c'est évidemment de devenir gros sur la partie assurance et de devenir profitable, c'est-à-dire d'utiliser ma capacité à former des gens à être de bons conducteurs pour des conducteurs aguerris, mais être certain qu'ils soient toujours conscients du risque routier, qu'ils aient les bons réflexes, etc. Et donc c'est là le point de ralliement entre nos deux activités, c'est espèce de, pas une formation continue parce que ça peut être très galvaudé comme terme, mais en tout cas une sensibilisation continue au risque routier. En tant qu'auto-école, on a toute la crédibilité pour être sûr que notre portefeuille d'assurés reste de bons drivers.
Et donc, pourrais limite finir concessionnaire auto. Pour les petites voitures, pour les jeunes conducteurs.
Bien
quoi,
sûr. Non, mais bien sûr. Mais j'avais été voir les distributeurs auto et en disant peut-être qu'on va pouvoir se lancer dans l'auto et tout. Et là, ils nous disent mais attendez, vos clients, ils sont assez jeunes, ils ont des petits budgets. Et nous, des clients qui ont des petits budgets pour des voitures pas trop chères, on en a plein. Donc nous, on veut soit des voitures pas trop chères, soit des clients qui ont un peu plus de moyens. Et donc, c'est très bien de se rendre compte que l'auto, comme ça, c'était compliqué. Mais tu vois, moi, quand on me dit, mais c'est quoi tes rêves, peut-être qu'un jour, Ornicar sera un constructeur d'une voiture, de la Dacia, Dacia nouvelle génération, on équipera tous nos enseignants de la conduite partenaire avec cette voiture s'ils le souhaitent, et on permettra aux élèves de pouvoir acheter ces voitures-là, etc., une espèce de voiture d'entrée dans la vie de conducteur. Enfin voilà, je ne nous interdis rien, il faut viser hyper haut et moi c'est ce qui m'anime parce que j'ai envie d'être déjà leader autre chose que français et leader autre chose qu'auto-école et voilà, c'est vraiment le virage qu'on a pris et c'est grâce à ça.
Mais ça ne te suffisait pas d'être leader français de l'auto-école ?
Non.
Ok.
Non, mais j'ai
qu'une vie. Pourquoi avoir plus autre chose d'après derrière ? C'est ce qui m'intéresse.
Parce que je veux une boîte, qui reste hyper longtemps, qui soit pourquoi pas dans le CAC 40, pas le Next 40, mais le CAC 40 à terme. Je veux une boîte qui soit valorisée 50 milliards, 100 milliards. Voilà. Moi, c'est ce qui m'anime, quoi. Travailler sur la rentabilité d'une boîte et tout, ça m'emmerde. Moi, ce qui m'amuse, c'est la croissance et c'est toujours d'avoir des projets en disant peut-être qu'on pourrait faire ça. Là, tu vois, je suis en train de me dire, il y a une stat qui était intéressante qui est sortie dans mes équipes la semaine dernière. En 2021, donc une génération, il y a à peu près 780 000 personnes qui naissent chaque année.
Ouais.
Ces personnes-là, elles finissent par passer le permis au moins une fois dans leur vie. Et donc, l'année dernière, on fait 386 000 clients. C'est-à-dire que 52% ou 51% de personnes qui
cette
sont
génération.
Nées, de cette, d'une génération passent et achètent au moins un produit sur Ornicar. Il n'y a pas une boîte qui permet, même Lydia ne permet pas ça, quoi. Donc c'est pour nous un avantage qui est colossal, c'est qu'on a une étape qui est devenue indispensable dans la vie d'un jeune qui accède à la mobilité. Et tu vois, pourquoi pas un jour dire en fait on a tellement de clients qui ont acheté des choses sur Ornicar, il y a l'assurance, mais vous pourrez très bien être une espèce de néobanque, proposer une solution bancaire à des jeunes qui aujourd'hui peut-être ne trouvent pas ce qu'ils veulent, etc. On a accès à un marché qui est gigantesque, aux consommateurs en puissance. Les ambitions, elles sont mais démesurées. Et je veux surtout qu'on ne s'interdise rien. Le tout étant de placer, moi c'est mon rôle, c'est placer toujours les meilleures personnes au meilleur endroit, au meilleur moment. Et un rôle de CEO, c'est avoir, voir le coup d'après, le ou les coups d'après, trouver les financements pour y arriver et s'entourer que de stars. Voilà, c'est notre obsession avec mon associé.
Mais alors, comment tu parlais tout à l'heure d'ego, etc. Comment tu as réussi à faire apprendre à ton ego que, en fait, t'étais pas forcément, t'avais pas forcément besoin d'être le meilleur dans la boîte ou le meilleur dans un. Parce que tu racontais que t'avais pas mal de décisions d'ego. Ça m'intéresse un peu de savoir comment t'as fait en grandissant.
Ouais.
Tu es encore tout jeune en même temps, t'as 33 balais.
Ouais, j'essaye de m'améliorer avec le temps. c'est pas une tâche facile, pas parce que j'ai rien à améliorer, mais parce que les habitudes ont la vie dure. L'ego, c'est, moi c'est ce que je dis, à chaque nouveau salarié, on fait des espèces de batch de 20-30 personnes, et avec mon association, on prend une heure pour l'expliquer, le culture code d'Ornicar, donc la culture d'Ornicar. Et dans la culture, il y a le no ego policy. Alors, désolé pour tous les anglicismes, hein, mais c'est effectivement bien l'univers startup un peu, un peu de connard qui ne s'influe par les Français. Qui parle
ou au baby foot, là, voilà, dans la cantoche.
Exactement. Mais c'est pas un cliché, c'est la vérité. Quoi.
Vous avez
je ne cherche même pas à me battre là-dessus. Voilà, le baby foot, ça marche. Les anglicismes, c'est efficace. Voilà, donc tout le monde peut nous traiter. C'est d'ailleurs, il n'y a pas longtemps que Charles Consigny, là, je crois qu'il a été interviewé ce matin sur RTL, qui disait qu'il n'en pouvait plus de ces start-upers arrogants et qui ne savent plus respecter la langue française, etc. Il a entièrement raison. Mais je m'en fous et j'en fais partie. Puis je l'emmerde aussi.
Voilà, moi c'est clair.
Donc ce que je disais.
Un peu d'égo encore là-dedans, mais.
Non, mais c'est, là, en fait, en vrai, il faut. D'ailleurs, nos valeurs au sein d'Ornica, elles sont de. Deux, on a humble et ambitieux. Et donc, parfois, on dit, mais c'est un peu antinomique, non ? C'est chelou d'être humble et ambitieux. Non, on est hyper ambitieux, on veut conquérir le monde, on veut racheter Google. Mais le fait d'être humble, c'est que je ne sais pas comment faire et j'en ai aucune idée. Et si je me plante, bah, c'est pas grave. Je suis très aise avec l'échec. J'ai aucun problème à reconnaître que j'ai dit une connerie, que j'ai fait une connerie. Et ça, je pense que la totalité de mon équipe pourra en témoigner. C'est-à-dire que j'en dis beaucoup des conneries, j'en fais beaucoup des conneries. Et j'ai aucun problème à le reconnaître. Là-dessus, je ne mets pas du tout d'ego là-dedans. Et voilà. Et donc, c'est un travail en permanence. Je me suis rendu compte qu'on a pris des décisions au début d'Ornicar qui étaient un peu trop drivées par l'ego. Et donc, il faut qu'à chaque fois, il y ait une raison valable pour faire ce qu'on fait et qui ne soit pas liée à l'ego. Communiquer une levée de fonds, c'est une vraie question. Toi. Est-ce que, j'ai rien contre eux, mais est-ce que faire la une de French Web, ça a un vrai intérêt pour la société ou c'est juste pour un peu se faire mousser, tu vois? Et parfois il y a une levée, par exemple une levée de fonds, on a décidé de pas l'annoncer parce que ça n'apportait rien à Ornica, etc. Aujourd'hui on les réannonce parce que ça envoie un signal fort au marché. On est dans l'assurance, j'ai besoin de rassurer nos prestataires, nos porteurs de risques, etc. Donc voilà, c'est un exemple tout con, mais dans quelle mesure c'est important de communiquer sur sa levée de fonds? Et bah parfois ça sert à rien parce que c'est juste pour se faire mousser et voilà, parfois ça rassure les personnes tierces avec qui on bosse. Donc voilà, c'est juste un truc comme ça et voilà. Et moi dans je veux racheter Google, je suis quelqu'un de qui a plein de défauts et je suis un stéréotype de start-upper, etc. J'ai les cheveux longs, j'ai pas de cravate en général, sauf aujourd'hui je suis en basket, en jean troué, je marche en chaussettes dans les bureaux, voilà. Et ben bah, ouais, c'est comme ça. En fait, c'est comme ça. C'est ni bien ni mal. Il y en a qui ont le droit de pas aimer ça. Je m'en fous. Et voilà. Et je mets absolument pas. Je le prends pas à titre personnel. Et pareil, quand je demande aux équipes d'interagir avec leurs équipes, n'oubliez pas que si vous avez une remontrance de votre manager ou même de votre manager, c'est pas la personne qui s'entraîne juger. C'est dans un contexte de travail, dans l'intérêt commun de l'avancée d'une organisation, d'un projet, qu'on vous dit que ça c'est pas bien. Ou quand je dois me séparer de quelqu'un, c'est hyper dur. Quand je dois virer des gens, c'est évidemment ce que je préfère le moins ou ce que je déteste le plus plutôt. Mais bah, quand on doit virer quelqu'un parce qu'il est plus au niveau, bah, voilà, dans l'intérêt de l'organisation, c'est pas contre toi. Toi, je te connais pas autrement que en tant que membre de l'équipe Ornica. Mais dans ces conditions-là, on pense que quelqu'un d'autre, un autre profil pourrait apporter plus. Donc voilà, je pense que t'es une bonne personne, t'es super, t'as plein de qualités. Je pense que pour Ornica aujourd'hui, il nous faut un autre profil. C'est même pas discutable, c'est tout, c'est comme ça. Et c'est notre rôle de s'assurer qu'on est toujours les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. Je répète souvent cette phrase parce que si on devait résumer le taf d'un CEO, c'est celui-là. Et c'est aussi notre taf, c'est d'inculquer ces valeurs-là et ces messages-là à nos subordonnés, à nos équipes. Voilà. Encore une fois, hein, l'idée n'est rien. La réussite d'une boîte, c'est l'exécution. C'est la capacité à mettre au travail dans la même direction une équipe de talents. Voilà, c'est tout. Donc, et là-dedans, l'ego, attention à l'ego.
C'est quoi pour toi avoir du succès?
Pour moi, avoir du succès, moi, je le mesure à...
T'as la sensation aujourd'hui que t'as du succès?
Ouais, j'ai l'impression que j'ai du succès parce que je peux me payer des trucs, je gagne l'argent qui vient témoigner de ce succès-là.
Okay.
Voilà. Encore une fois, je suis drivé par l'argent. Et j'ai absolument pas de problème. Et souvent, en entretien, je pose la question, est-ce que l'argent est un de tes drivers? Et la réponse, non, mais je suis là pour l'impact. Bon, ok, en fait, je veux bien croire que des gens soient là pour l'impact, mais arrêtez de me répondre. Enfin, souvent, je dis, moi qui suis, par exemple, drivé pas du tout par l'impact, mais que par le pognon, quel est ton driver principal? Et là, bizarrement, je pourrais faire des stats, mais la réponse, elle change complètement. Donc voilà, moi, le succès...
Une fois que tu dis... Ce que tu veux dire, c'est qu'une fois que tu dis, toi, que c'est ton driver...
Exactement. Les autres sont plus à l'aise.
Une fois que tu le mets sur la table... Ok, d'accord.
C'est ce qu'on dit. Alors là, je vais étaler une culture que je n'ai pas du tout, mais j'écoutais, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui parlait de Zemmour et de sa politique. Il disait qu'il permettait d'ouvrir, je ne sais pas quoi, la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, c'est, avec les propos de Zemmour, il permet aux autres candidats d'aller un peu plus loin que ce qu'ils auraient aller sur ces sujets-là, parce que Zemmour a tellement tapé fort sur, je ne sais pas moi, l'immigration, je ne sais pas quoi, d'ailleurs, je m'en fous, mais il permet aux autres de finalement de se prononcer, il laisse plus de liberté aux autres d'aller un peu moins loin, mais d'aller plus loin que ceux où ils auraient été sans un propos comme ça.
Il brise un peu une forme d'omerta, quoi.
Exactement. Et pour moi, c'est pareil. En entretien, j'essaye de. Je suis la caricature de moi-même pour libérer la personne et lui permettre de dire vraiment qui elle est. Donc je fais vraiment. Je dépeins un portrait caricatural de ma personne. Et comme ça, la personne en face, elle se sent beaucoup plus à l'aise pour me dire qui elle est vraiment, quoi.
Voilà. Je vois bien l'idée. Tu t'as mentionné très rapidement qu'en fait tu avais perdu ton père très jeune. J'ai l'impression que chez toi il y a un peu une forme de vouloir bouffer la vie le plus possible, de vouloir réussir, etc. À quel point, je me demandais à quel point cette perte, qui doit quand même être dingue quand t'as 15 piges, ton père, ta figure paternelle, a impacté le mec que t'es aujourd'hui, quoi.
C'est difficile à dire parce que j'ai pas connu de vie avec une autre situation. Ouais. Effectivement, moi je relativise tout en permanence. Donc évidemment, j'ai besoin de vivre à fond. Donc j'ai besoin de faire des trucs un peu fous. J'ai besoin de faire que ce soit des activités un peu folles, des projets un peu fous, une boîte avec des grosses ambitions, parce que j'ai bien ce syndrome-là de je n'ai qu'une vie, quoi. Et je veux surtout pas perdre du temps à faire des choses qui ne m'intéressent pas. Et c'est aussi pour ça que je passais beaucoup de temps avec mes enfants. C'est que j'ai qu'une vie, mais mes enfants, ils auront plus jamais l'âge qu'ils ont aujourd'hui. L'âge où ils ont encore envie de passer du temps avec leurs parents.
Ils ont quel âge tes mômes?
Ils ont 1 an et 4 ans, allez.
Ils n'ont pas le choix pour l'instant.
Ils n'ont pas le choix. Et ils n'ont pas le choix. Et donc, je vais en profiter tant qu'ils n'ont pas le choix. Et qu'en plus, j'ai l'impression qu'ils kiffent, quoi.
Ouais.
Et voilà. Et j'ai évidemment la phobie des remords. Tu vois, voilà, super. J'ai amassé plein de cash. Mais en fait, je ne sais pas qui sont mes enfants. Ma femme, je la vois plus. Enfin, tu vois. Et voilà. Ça me fait peur.
C'est un truc qui te fait peur, ça?
Ouais, c'est un truc qui me fait peur. C'est-à-dire que j'ai envie de bouffer la vie, mais je veux pas me tromper de priorité. Et donc, tu vois, jamais je demande aux équipes de bosser le soir ou le week-end ou tout ça. Moi, je suis très clair. C'est, vous avez une vie personnelle et c'est votre équilibre vie pro, vie perso qui fera que vous serez efficace. Moi, je crois pas du tout aux boîtes où on fouette les gens. On dit, il faut que tu bosses, mais comme un chien. Oui, il y a des périodes de rush, mais même pendant ces périodes de rush, si c'est au sacrifice, au détriment de votre vie perso, mais ça vaut pas le coup, quoi. C'est qu'une boîte, c'est qu'un moyen pour gagner de l'argent. Ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, moi, Ornicar, je ferai en sorte qu'elle n'empiète quasiment jamais sur ma vie pro.
Très bon lapsus. Tu arrives aujourd'hui?
Écoute, j'y arrivais. Là, depuis janvier, c'est un peu intense.
Ouais.
Mais j'y arrivais, ouais. Moi, en général, je suis rarement après 19h chez moi. Ce qui me permet d'entrevoir mes enfants. Évidemment, je bosse jamais le week-end. Je dois prendre bien 6-7 semaines de vacances par an.
Okay.
Voilà. Et en fait, si j'ai pas ça, ça ne m'intéresse pas. Alors, si jamais on venait me dire, je sais pas qui pourrait me dire, mais peut-être mes investisseurs, j'en sais rien, mes actionnaires, je leur dis, mais c'est pas de problème, c'est vous qui prenez la boîte, quoi. Moi, je ne travaille pas dans ces conditions-là. Ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous. Vous pouvez me prendre mes actions. Je m'en fous pas, mais on se retrouvera devant les tribunaux. Mais en tout cas, ça ne vaut pas le coup. Et même devant les tribunaux, j'irai avec beaucoup de détachement. Et voilà, aujourd'hui, j'ai la phase. Je sais à peu près comment je veux gérer ma vie. Je sais que ma vie privée, ma vie personnelle, ma vie de famille n'est pas deux fois plus importante et même pas mille fois plus. Et l'autre n'existe même pas, je m'en fous, quoi. Si c'est pour passer à côté de ma vie perso, ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc ça me permet d'être très à l'aise, tu vois. Là, j'ai une peut-être c'est avec eux, tu as discuté, mon agence de presse. Et donc Roxane, elle se reconnaîtra et elle essaie de m'emmener à des dîners tout le temps, tous les soirs, des dîners pour travailler mon réseau et tout. Je dis non, mais c'est même pas la peine, Roxane. Et je te le redis là, si tu nous écoutes, je sais que tu vas nous écouter, c'est mort, je fais pas tous ces dîners là. J'en fais un par trimestre, mais grand maximum, parce que chaque dîner que je passe en dehors, c'est des dîners où je passe pas, où je vois pas mes enfants, etc. Et au bout d'un moment, j'ai fait un choix, tu vois. Et si ça marche d'être ambitieux dans sa boîte et en plus d'avoir géré une vraie vie de famille, je vais pas me priver, quoi.
Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler? On a un peu le temps. C'est surtout qu'on n'a pas de, de temps délimité, si tu veux. Pour prendre 10 minutes de plus.
écoute,
business angel, tu racontais ?
Ouais, je suis, je suis business angel. J'aime bien. J'aime bien réinvestir dans des boîtes. Alors, je fais pas ça parce que certains, je les entends dire, j'aime bien redonner ce que l'écosystème m'a donné. Moi, non, pas du tout, moi.
Tu es là pour l'argent.
Moi, je suis là pour l'argent. J'investis que dans des boîtes pas philanthropiques. Hein. J'investis dans des boîtes où je pense qu'elles vont valoir 10 milliards, quoi. Et c'est ce qui me drive. Et sinon, en fait, j'y passerai pas de temps, quoi. Donc, et voilà, moi j'ai cette approche de maintenant, je dis pas que je suis un expert, mais j'en suis à ma quatrième levée de fonds. Et donc, ce que je vends aux entrepreneurs, c'est écoutez, moi je vous vends, aujourd'hui je rentre en, on s'appelle en seed, en amorçage, donc très tôt. Et en gros, me demandez pas trop d'aide, sauf pendant vos levées de fonds et pendant vos réflexions autour des financements de votre société. Voilà, moi je veux juste que vous vérifiez la taille de marché, mais ça c'est assez facile, et vérifiez que vous êtes des optimistes, pas des ambitieux mais des optimistes. Souvent ça va te perdre, mais enfin ambitieux c'est un prérequis, mais ça va venir avec la taille de marché. Mais je veux que la mentalité soit quelqu'un qui ne voit que du positif. Et c'est déjà une partie du succès, de voir toujours le positif à chaque fois. Et voilà, et je les accompagne pendant les levées de fonds parce que en fait c'est un truc que j'adore. Alors pas du tout faire la paperasse et tout, les docs, moi ça m'emmerde, c'est pas moi qui les fais, mais les négociations, moi j'adore. Maintenant les fonds, je les connais par cœur, je sais exactement comment ils pensent, je sais comment ils réfléchissent, je sais quels sont leurs drivers de décision, je sais, en fait je sais leur mécanisme de prise de décision. Et donc, voilà, là, moi je suis là et je me rends compte de toutes les erreurs que je faisais. J'ai été pas mal coaché par un de nos invests et je me rends compte de toutes les erreurs que je faisais. Et je coach certaines des boîtes dans lesquelles j'ai investi. Ils ne peuvent pas s'empêcher de tomber dans ces travers-là. Enfin, je sais pas, si je devais donner que deux tips, quand tu lèves des fonds, il y a un béaba, c'est déjà tu ne donnes pas la valorisation que tu veux. Parce que ça sert à rien, ça risque de faire flipper le fond. Et puis ça se trouve, il pensait viser au-dessus, il va se dire bah tiens, j'ai gagné quelques millions. Donc surtout, faut dire le montant qu'on cherche à lever et jamais la valorisation. Et si on te pousse, parce que moi ils me disent mais il m'a posé trois fois la question, et bah t'es un tout petit peu sec et tu dis écoutez, je pense que c'est plutôt votre travail de définir une valorisation. Moi je cherche à lever 2 millions d'euros. J'ai pour projet de faire une
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Multibillion dollar compagnie, donc il m'en faut sous le pied pour pouvoir faire d'autres tours de financement. Donc je me doute que vous travaillerez dans un intérêt commun, etc. Et puis basta.
Donc ce que tu veux dire, c'est que dans Qui veut être mon associé à la téloche, là, ils se font tous carottes.
Mais bien sûr, hein, c'est de la télé, quoi. C'est évidemment pas comme ça que ça se passe vraiment. Et voilà. Et donc c'est premier conseil, ne jamais donner de valorisation. Et deuxième conseil, ne jamais dire avec qui vous discutez en parallèle. Parce que ça m'est encore arrivé, peut-être qu'il se reconnaîtra, je tairai les noms, mais une boîte dans laquelle que j'accompagne, cette fois, j'ai toujours pas investi dedans, mais je l'accompagne. Et je suis sympa parce que je vais investir dedans, mais je lui donne des conseils pour mieux augmenter sa valorisation. Donc je me fais vraiment, je me tire une balle dans le pied, mais ça m'amuse. Et je dis, mais tu ne dis pas avec qui tu discutes, parce que les mecs, ils vont s'appeler. Et on dit, ok, non, mais attends, viens, on se met d'accord tous les deux, on fait moitié-moitié sur le ticket qu'on va investir, mais on réduit un peu la valorisation. Bah non. En fait, non, si tu ne communiques jamais le nom des autres fonds avec qui tu discutes, quoi. Ça, c'est vraiment déjà deux béabas pour mener une négociation avec des fonds. Bon, après, il y en a plein d'autres, mais ça pourrait prendre trop de temps.
Et puis, ne filez pas votre capital trop vite.
Ouais. Oui.
Alors ça, moi, c'est vraiment le...
Ouais, ça, c'est ton truc. Genre, moi, je me suis ouvert assez rapidement.
Je ne sais pas si c'est mon truc. C'est juste pour moi...
C'est ton expérience.
Ouais. Je sais pas si c'est forcément la bonne façon de faire, hein, je suis pas sûr.
En fait, c'est deux projets complètement différents. Il faut, tu vois, à partir du moment où tu lèves des fonds, tu te mets dans une position où tu es là pour, tu deviens co-actionnaire de ta boîte. Et donc, ta mentalité, c'est de créer de la valeur le plus vite possible pour tes actionnaires qui eux veulent faire, en fonction du stade où ils investissent, entre x5, x3, x2 en 5 ans en général. Et donc moi aujourd'hui, c'est ce que je dis à mes fonds. Quand je lève des fonds, je dis, alors moi, je vous préviens tout de suite, je vous ai promis qu'une seule chose. À ce stade, faire x3 en 5 ans. Tout le reste, je ne veux même pas vous entendre. Si j'ai besoin de vous, je vous demanderai et je serai content que vous puissiez m'aider. Mais si jamais vous n'êtes pas d'accord avec telle ou telle décision, bon, on en discute, oui. Mais c'est quand même moi qui ai le mot final.
Et t'as gardé le contrôle de ta boîte, quoi.
Non, s'ils veulent me virer, ils me virent.
Oui, okay.
Mais le fait est que...
En tout cas, dans ton attitude vis-à-vis d'eux.
Exactement.
T'es dans ce...
Et je suis très à l'aise en disant, mais le jour où vous pensez que mes décisions ne sont plus les bonnes, il y a une solution qui est très efficace. Ça s'appelle la révocation d'un CEO. Et comme je ne mets pas d'ego, je ne le prendrai pas personnellement, il n'y a aucun sujet. Moi, je pense que c'est cette voie pour faire d'Ornica une décacorne, comme dirait Xavier Niel. Si vous n'êtes pas d'accord, et bah, fair enough. Mais dans ces cas-là, on discute, on fait un deal en disant, bah, on fait une passation, une transition. Encore une fois, je ne mettrai pas d'ego. Virez-moi, je ne mettrai pas d'ego. Mais je pense que c'est la bonne décision que je prends. Et voilà. Et une fois que tu es assez clair avec ça, avec tes fonds, bah, peut-être que tu vas te faire virer, donc peut-être que je vais me faire virer un jour. Mais je ferai d'autres choses. J'ai plein d'idées de boîtes, plein de projets. Je veux partir de Paris. Enfin bref, j'ai un milliard de trucs à faire dans une autre vie, quoi.
Ok. Merci beaucoup Benjamin, c'était super.
Merci à toi.
Bon bah je mettrai tous les liens pour aller découvrir Ornica, même si vous j'imagine que vous connaissez déjà.
C'est sympa.
À plus.